Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Martin. Bonjour Frédéric Martin.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Frédéric Martin, vous êtes éditeur et vous êtes peut-être le seul éditeur marseillais, c'est ça ?
Je crois, en tout cas, quand il m'arrive de présenter des livres devant les libraires ou les journalistes, je me fais toujours avoir sur les hauts fermés, les roses, j'y arrive pas. Et apparemment, ils n'ont pas l'habitude de l'accent.
Alors, vous avez choisi comme journée particulière le 10 août 1981. Ce jour-là, la loi Langue, qui instituait le prix unique du livre, était adoptée.
Prix de vente unique pour le livre à partir d'aujourd'hui. La loi signée par le ministre de la Culture, Jacques Lang, entre en vigueur. Elle annule la liberté des prix établie par l'arrêté Monory qui entraînait de très grandes différences selon les points de vente et finalement une situation injuste pour les amateurs de littérature. La nouvelle loi répond à une nécessité, c'est du moins l'opinion du directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture, Jean Gattegleau, au micro de Paul-Louis Mignon.
Je crois qu'elle était nécessaire pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y avait une inégalité profonde entre les différentes parties du territoire. Donc, la première nécessité, c'était un aménagement culturel du territoire. La deuxième nécessité, c'est que le développement de la vente en grande surface encourageait la vente presque uniquement de ce qu'on appelle ici les livres de grande diffusion. Appelons-les les best-sellers, mais c'est un mauvais terme parce que ça englobe aussi bien des collections de poche que des collections de romans de grande diffusion. Et les éditeurs se trouvaient petit à petit entraînés dans un circuit qui faisait qu'ils n'investissaient plus intellectuellement dans des auteurs réputés difficiles.
Pourquoi vous riez, Frédéric Martin ?
Ah, oh, c'est fou, comme
Pourquoi
c'est sérieux. Comme,
ah bah c'est sérieux.
Et en plus, je suis pas du tout d'accord avec le lancement du journaliste qui parle de, qui annule la liberté. Il emploie, alors que c'est le contraire, cette loi a créé de la liberté.
Mais alors, c'est un drôle de choix que vous avez fait là, quand même, Frédéric Martin, parce que en 1981, vous étiez minot encore. Vous aviez quel âge ? Ouais,
j'étais un minot de Marseille. J'avais 6 ans, mais d'abord, le choix de cette date, c'était une manière de remercier plein de gens, les libraires, sans qui j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, ça c'est sûr. Et ensuite, personnellement, ça m'amuse et en fait, même ça me réconforte de voir que les choses se dessinent à un moment où vous êtes juste un gamin en train de courir dans les calanques de Marseille et que là, l'inflexion majeure se prend sans que vous êtes du tout conscient de ça. Et je crois que dans la vie, ça se passe souvent comme ça, en fait.
C'est-à-dire que vous n'étiez pas du tout conscient de ce qui était en train de se passer de comment ça allait infléchir sur le cours de votre vie. C'est-à-dire comment ce prix unique du livre a fait ce que vous êtes devenu. À participer en tout cas.
L'été 81, c'est un été qui est assez incroyable pour moi parce que donc c'est l'été où je m'ancre dans Marseille.
Ouais.
C'est l'été où cette loi est votée et en plus c'est l'été où sont mis en place les ZEP, donc les zones d'éducation prioritaire, qui ont aussi un peu changé ma vie quand même.
Alors sur les zones d'éducation prioritaire, on va y revenir un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez me parler du gamin de 6 ans dans Marseille ? Vous habitiez où déjà, Frédéric Martin ?
Ce qu'on appelle les quartiers nord.
D'accord.
Les quartiers nord, c'est les quartiers un peu malfamés. Enfin, qu'on dit malfamés, mais à l'époque, c'était le paradis. J'étais à la frontière entre Marseille et ce qu'on appelle Septem, qui est une ville. C'était un peu mes garrigues à moi. On était dans la colline, on était dans une cité qui venait de se créer, qui s'appelait La Solidarité.
Alors, j'ai vu des photos.
L'école était suspendue en plus en haut des collines, donc on surplombait les barres HLM.
Et en fait, vous étiez à la limite de la ville. J'ai vu des photos qui
donnent. Oui, c'est ça. Pour ceux qui veulent se repérer un peu, il y a un grand hôpital à Marseille qu'on appelle l'hôpital Nord puisqu'il est donc dans les quartiers Nord. C'est juste derrière l'hôpital Nord.
Et autour, c'est la nature.
Alors c'était là, j'y suis plus retourné depuis quelques années. Oui. Je sais, toute la zone urbaine autour de Marseille est en train d'être de former plus qu'une seule ville avec Aix en fait. Ça, donc c'est entre Aix et Marseille les quartiers Nord.
Mais vous, quand vous y étiez enfant, Autour de la solidarité, donc de la barre HLM, c'est la nature.
Ah bah c'est des souvenirs fous de buissons où on allait chercher les murs et même chasser l'escargot. Je me souviens notamment d'une fois où on était parti avec des sacs en plastique, on avait ramassé des tonnes d'escargots et après on avait fait tous les étages de tous les immeubles et on vendait nos sacs d'escargots.
Ça marchait ?
Ouais. Et c'était curieux d'ailleurs parce que l'histoire des escargots me fait penser à une autre chose. Il y avait des vieilles dames qui circulaient dans la barre HLM avec des espèces de caddies de supermarché. Et dans le caddie, il y avait des grosses marmites de soupe d'escargots. Elles chantaient à la canson, les limaçons, il y en a des gros et des pichons. Donc c'était encore un moment où on pouvait, dans les cités, avoir une vraie vie communautaire où tous les gamins circulaient en bande. Moi, j'étais le seul blanc de la photo de classe, hein, par exemple. Ouais. Il y avait 20 nationalités dans chaque classe.
Et c'était plutôt heureux ?
Dans les yeux d'un gamin de 6 ans, oui, je pense pour les adultes aussi. Hein. On était lâchés en liberté, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, c'est des cités où il est très compliqué de rentrer. Il y a des gars à l'entrée qui vous arrêtent. C'est vraiment une sorte de police intérieure qui vous demande ce que vous venez faire ici.
Mais pas en 80, hein, pas du tout. C'était pas du tout comme ça en 80.
Non, pas du tout.
Alors, vous aviez aussi un autre terrain de jeu. Donc, il y avait la garrigue autour de la solidarité. Et puis, il y avait aussi la Joliette.
On dit que le port de Marseille était le poumon de la ville, mais moi je dis que la Joliette c'est le cœur. Ce n'est pas le poumon, mais ça a été le cœur de la ville de Marseille.
La Joliette, monsieur visite, pour quelle raison ?
Eh bien la Joliette, ça a été l'impératrice Joséphine qui a débarqué d'un navire en venant d'Égypte, qui a vu cette place qui était très belle, elle a dit « Oh, cette place est Joliette ». Le quartier de la Joliette, il est composé en principe de dockers et de marais. Les ouvriers se rapprochaient de leur lieu de travail. Il y avait beaucoup d'immigrés. Il y avait premièrement les réfugiés espagnols qui avaient fui l'Espagne de Franco. Il y avait des Italiens qui avaient fui Mussolini. Puis il y avait une multitude, il y avait des Russes, il y avait des Arméniens qui avaient fui, qui avaient des Algériens qui venaient d'Algérie pour faire le docker. Il y avait pas beaucoup de Français. Et d'ailleurs, moi-même, étant Français, les gars m'envoyaient revendiquer.
Bon, ça vous fait plaisir.
Ah, il est mieux qu'un journaliste parisien, quand même.
Ah ouais, on est d'accord. Pourquoi il est mieux ?
Il est vivant, enfin.
Ouais. Il est vivant. C'est un docker de la Joliette, donc qui habite à la Joliette, que vous venez d'entendre. Mais ça vous, j'ai l'impression que ça vous fait un bien fou d'entendre...
Ça pourrait être le copain de ma mère, au niveau de l'accent, par exemple. Pagnol a tout piqué sur ma mère, au niveau de l'accent. et de la gouaille.
Et alors, à la Joliette, vous faisiez quoi ?
Il faut que je vous fasse un peu d'historique familial pour comprendre.
D'accord.
Tout à l'heure, je disais que ça va aller très vite. Je suis né d'un match de foot. C'est-à-dire, ma mère était d'origine italienne, sarde pour être précise. Mon père était d'origine un peu belge, presque, à la frontière ardennaise. Et lui se destinait à une carrière de militaire. Ma mère se destinait au voile. Elle voulait devenir bonne sœur. Et sa sœur cadette, qui craignait pour elle, dit « Bon, je vais l'amener au match de foot où jouait son copain de l'époque. » Mon père était buteur de l'équipe et il y avait eu un gage qui était que s'il marquait 3 buts, il fallait que ma mère lui fasse la bise.
Ouais.
Heureusement pour moi, il les a marqués ces 3 buts. Et après, je suis né 4 mois après le mariage.
D'accord.
Voilà. Donc ça tient à rien. Et pourquoi je parle de ça, c'est que, en fait, la Joliette, c'est 200 mètres de l'endroit où est née ma mère et de l'endroit où je suis né aussi. C'est-à-dire que toute l'enfance que j'ai eue, c'est faite aussi à proximité du lieu de naissance de ma mère. Alors elle, ça s'appelait la Villette, la Joliette, la Villette. Voilà, c'était quasiment un bidonville hein, dans les années 50. Et on a grandi, je dis on avec ma sœur, dans ce quartier qui historiquement a été donc le point de jonction entre la presque sarde et le presque belge, Marseille. Ouais. Et on a grandi dans ces quartiers populaires qui effectivement sont la zone portuaire abandonnée de la ville.
Et donc là, on...
Bah là, c'était l'autre liberté. Donc, je passe de la garrigue au dock abandonné. J'ai été baptisé, par exemple, dans une église qui est située en plein milieu des docks. Et c'est hallucinant quand on la voit aujourd'hui. C'est quasiment un mini bidonville religieux, c'est-à-dire que c'est complètement abandonné, désaffecté. Et c'est les restes de cette grande ville portuaire qu'a été Marseille jusqu'à la fin des colonies, grosso modo. Le port a périclité dans l'après-guerre, Première Guerre mondiale. Et a définitivement perdu son âme quand le port industriel de Fos-sur-Mer, donc au nord de Marseille, a été construit pour accueillir les conteneurs, le port pétrolier, etc.
Alors il y avait donc la Joliette, la Solidarité, il y avait les îles du Frioul, où vous alliez aussi. Alors là, j'imagine que c'était le grand voyage et le goût des moules au feu de bois et au citron.
Ah, je vous avais expliqué ça, oui. Marseille, c'est la plus belle ville du monde. je crois, vraiment, parce que elle est prise dans un écrin de pierre calcaire blanche, et en fait elle s'étend sur toute cette écuelle de pierre le long de la mer. Et donc moi, mes souvenirs d'enfance sont marqués par des ruelles où à chaque carrefour, vous pouvez déboucher en plein sur la mer. Mmh. Et donc en face de la mer, il y a deux îles un peu mythiques. Il y a le Château d'If, qu'on connaît pour Monte Cristo, et il y a surtout le Frioul. Et ça a été pour moi aussi des souvenirs de liberté, parce que comme c'est une île, la mer italienne n'avait pas peur que je m'échappe, donc j'avais le droit d'y aller. Et dans l'enfance, on y allait avec les copains, on prenait la canne à pêche, on prenait une boîte de maïs, si je me souviens bien, on mangeait la boîte de maïs et ensuite on allait choper des moules parce qu'on n'attrapait rien comme poisson, c'était évident. Mais on prenait quelques bouts de bois et on mettait les moules dans la boîte de conserve, on faisait chauffer ça et quand les moules s'ouvraient, elles étaient prêtes. Avec du poivre et du citron, c'était divin.
Alors il y avait le Frioul, il y avait aussi la presqu'île de Niolon où vous alliez faire de la pêche avec votre oncle.
Ouais, ça, j'ai eu des oncles assez exceptionnels.
Et dont un qui était pêcheur?
Non, il était manutentionnaire chez Michelin. Un autre a été un peu proxénète et grand bandit. Donc voilà, j'ai des souvenirs de visites de prison aussi. Mais c'est des hommes qui m'ont énormément donné. Voilà. Et donc mon oncle Denis, quand il était de repos chez Michelin, on prenait les cannes à pêche. On n'attrapait pas beaucoup de poissons là non plus, mais on se faisait des vrais gueuletons et surtout on allait se baigner à Niolon.
Marseille, quand s'éveillent les beaux jours de la belle saison, dans les bacs, on s'embarque pour taquiner le poisson. Les girelles nous appellent comme des sirènes dans la mer, et l'on jette, quelle fête, l'hameçon dans les flots verts. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des joyeux marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent. Les plus blasés ne s'enlacent jamais.
Quand ça pite, 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 quand ça pite à l'hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson.
À qui il est doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais. La tempête qui nous guette n'arrête pas les vrais pescadons. Si la vague fait des blagues, eh ben nous pâtissons et c'est tout. Mes pêcheurs vers la terre, lorsque bredouille nous revenons, on s'arrête chez Villette qui nous vend du bon poisson. À qui il est doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des joyeux marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent. Les plus blasés ne s'enlacent jamais.
Quand ça pite, 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 quand ça pite à l'hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson.
À qui il est doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais.
Frédéric Marceau, pourquoi vous riez à cause de quand ça pite, c'est ça? C'est ça qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans la chanson?
Ouais, alors là, l'expression complète, c'est « Vévé, ça pite !»
Et ça veut dire
« Regarde, regarde, ça mord !»
Non, mais il faut pas que je vous traite comme un indigène de Marseille, quand même.
Oh, moi, ça me dérange pas.
Non. Bon, alors, une journée particulière, ça continue jusqu'à 15h, et c'est l'éditeur, Frédéric Martin, marseillais, comme vous l'avez compris, qui est notre invité aujourd'hui. En 1981, donc, avec l'élection de Mitterrand, des choses déterminantes pour votre avenir se décidaient sans que vous le sachiez, Frédéric Martin. Il y a eu la loi sur le prix unique du livre. Cette même année 1981, comme vous le disiez en début d'émission, le gouvernement décidait de créer des zones d'éducation prioritaires, les ZEP. Et l'idée était de donner, je cite, plus à ceux qui en avaient le plus besoin.
Rentrée scolaire, un nouveau dossier dans ce journal à la veille du retour en classe d'un premier contingent d'écoliers, le dossier des zones prioritaires. Traduction, les régions où les statistiques montrent qu'il y a le plus d'échecs scolaires. Une illustration maintenant de ce qui se passe dans ces zones prioritaires, une illustration avec le Nord. On y trouve donc un grand nombre d'échecs scolaires. Un reportage de Bernard Berti de Fréquence Nord qui a rencontré le recteur de l'Académie de Lille, Claude Durand-Primborne.
Si je voulais simplifier les choses, je dirais même qu'à la limite, toute l'Académie est zone prioritaire, sauf peut-être quelques petites régions. Ça concerne tout le littoral, tout le bassin minier et également une grande partie de l'agglomération, enfin de la communauté urbaine de Lille.
Vous n'avez pas peur que ces enfants qui déjà ont été rebutés par l'école ne le soient encore plus si on leur offre plus de soutien et plus d'heures de cours ?
S'il s'agit d'ajouter des heures à des heures déjà existantes. Non, s'il s'agit d'admettre qu'on se servira des heures en divisant les groupes d'élèves selon les handicaps dont ils sont affectés et en faisant des traitements différenciés.
Frédéric Martin, ça n'a pas l'air de vous plaire encore une fois cette archive. Alors parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous avez bénéficié de ces zones d'éducation prioritaire. Vous étiez dans les quartiers nord de Marseille, dans une zone d'éducation prioritaire.
Oui, tout le quartier, c'était le quartier Saint-Lazare de Marseille. Ouais. Et Saint-Lazare, il s'appelait comme ça parce qu'au Moyen-Âge, Lazare, c'était le saint des pestiférés. C'est là où on mettait les indigents de la ville à l'époque. Et c'est resté un quartier très pauvre et voilà où il y a besoin d'investir. Après, ce qui pour moi est choquant
dans
ce que j'entends, c'est qu'on a l'impression qu'on fait la charité, alors que le vrai cadeau, c'est ceux qui donnent qui se le font. C'est-à-dire que quand on donne la chance à des enfants, c'est bien pour tout le monde. Là, on est presque à écouter cet homme dans un système de performance où il faut les ramener au niveau. C'est pas du tout ça.
C'est pas comme ça, à mon avis,
l'enjeu de l'éducation. Et c'est aujourd'hui encore un vrai problème. Je pense que, pour simplifier, moi, j'ai eu des parents fabuleux qui m'ont donné la confiance, l'amour, donc les choses les plus importantes. Par contre, cette ZEP, moi, m'a permis d'accéder à des choses que je n'aurais pas eu autrement. Et j'ai même des souvenirs un peu douloureux par rapport à ça, parce que, en gros, donc le système, il y avait un collège au milieu du quartier qui drainait les élèves d'environ 4-5 écoles communales.
D'accord.
Et avec la limite des moyens, il y avait une classe donc dans ce collège de ZEP qui rassemblait un peu, en gros, les enfants qu'on essayait de sauver, si je reprends la terminologie de cet homme. Ce qui fait que dans chaque école communale, on prenait les 3-4 premiers élèves de chaque classe de CM2.
C'est votre cas? C'est ce qui s'est passé pour
vous?
Ouais,
mais avec un souvenir très bizarre. Quand vous êtes gamin et que vous vivez ça, je vous assure, c'est pas simple. Parce que, je sais pas pourquoi, mais toute ma scolarité, je crois, à la primaire, j'ai été quatrième. Et dans cette école-là, on prenait les 3 premiers. Et le dernier trimestre du CM2, je suis passé 3e. Et je suis ému parce que
Parce que quoi?
Je me souviens de la mère de l'enfant qui était 3e toute l'année et qui est passé 4e. Et elle a hurlé.
Mais ça changeait beaucoup de choses.
Bah oui, qu'elle savait que son fils, il allait avoir une autre vie parce qu'il serait pas dans la classe bilingue. On l'appelait la classe bilingue parce que le prétexte pour former cette classe, c'est qu'on avait 7 heures d'anglais par semaine au lieu d'en avoir 3. Mais c'était surtout une classe où les mères savaient, et les parents s'intéressent aussi à l'avenir de leurs enfants, savaient que les enfants seraient dans un milieu un peu plus protégé, où ils pourraient étudier. On avait des moyens.
Il y avait des vraies différences avec cette classe.
Mais
cette
on avait par exemple des voyages scolaires. C'était tout con, mais moi je suis allé en Écosse, je suis allé en Angleterre. Et c'est pour ça, c'est pas des remises à niveau. C'est simplement qu'on donne à des enfants qui ont plein d'énergie l'envie de s'éclater. Et aujourd'hui aussi, c'est ça l'enjeu. Et moi j'enrage quand je vois toutes les portes qu'on ferme à ces générations-là, parce que c'est nous qu'on prive en leur donnant pas plus de moyens. Et déjà à l'époque je trouvais ça injuste qu'il y en ait que 3 qui passent sur les 30 qui étaient dans
terrible,
la classe.
C'est terrible.
Et en plus j'avais un sentiment de culpabilité.
Christophe
Picato, c'était son nom, je m'en souviens encore, je l'ai jamais revu hein. Ça s'est arrêté au CM2 de moi, mon histoire avec Christophe. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais c'était un mec super.
Alors, vous étiez au collège Versailles, hein, c'est ça, le collège Versailles de Marseille.
Donc là, on arrive au niveau du collège. En fait, sa situation géographique est ubuesque, puisque c'est un collège qui est dans une impasse, qui est collé à une bretelle d'autoroute, en fait. Et donc, on a le bruit et les voitures tout le temps. On est longé par des barres d'immeubles qui sont des appartements de marchands de sommeil, quoi, vraiment. Et où c'est extrêmement sale, il y a des déchets partout. Certains élèves qui habitent dans cette partie-là du quartier traversent cette décharge sauvage. On se voit dans un pays sous-développé. Il faut savoir que le collège ressemble à une prison, mais vraiment. Il est bardé de grilles, de grillages, de choses anti-escalade, de caméras. Mais d'ailleurs, c'est ce que disent les élèves souvent la première fois qu'ils disent « Oh, bah, c'est une prison ». Après, il faut savoir que le collège va être rénové. Alors, il y a un panneau sur la que vous voyez là qui annonce une extension et reconstruction du collège Versailles à 22 millions d'euros. Mais en fait, ce panneau, il était déjà là quand je suis arrivé et ça fait 10 ans qu'il est là en fait. Donc en fait, on est un peu dans le au niveau des politiques, dans des promesses pour gagner du temps. Au niveau de la mixité sociale, c'est le niveau zéro. Tous nos élèves quasiment sont d'origine étrangère. D'ailleurs, une fois, un élève m'avait demandé « Mais pourquoi il n'y a pas de français dans le collège ?» Parce que pour certains d'entre eux, français, c'est être un blanc, quoi. Donc pourquoi il n'y a pas de blanc dans le collège ?
Frédéric Martin, c'est une archive qui date de 2016. Hein. C'est un extrait des Pieds sur Terre, l'émission de reportage de France Culture. Et je me disais, c'était comme ça aussi ? C'était comme ça, ce collège Versailles, quand vous y êtes entré, dans quoi, au milieu des années 80 ?
Oui, oui. Il y avait plus de mixité, je pense.
Ouais.
J'étais à ce collège, mais j'ai même vécu dans cette rue de Versailles.
Ouais.
J'habitais au 16 rue de Versailles.
Alors, à côté du pont d'autoroute, enfin, vraiment, ouais, Marseille, comme c'est décrit?
Marseille, c'est particulier quand même. Par exemple, en termes d'urbanisme, c'est une des seules villes de France, à ma connaissance, où l'autoroute rentre jusque dans le cœur de la ville. Donc,
ouais,
on n'est pas en périphérie. Elle a une gestion de son patrimoine. Marseille a une célébrité dans l'histoire de l'art, c'est Puget. Quand on voit ce que la ville fait de ses bâtiments, il en a construit trois. Un avait été laissé en ruine quasiment jusque dans les années 80. L'autre avait été transformé en commissariat. Et sa maison qu'il a construite de ses mains, et Puget, c'est l'équivalent de Michel-Ange, hein, au XVIIe siècle.
Mmh.
Aujourd'hui, c'est une sorte de mini-Tati. Enfin, voilà. Donc le collège Versailles est pas...
Et
pas plus délaissé que beaucoup de choses dans la ville.
Mais il est sous le pont d'autoroute.
Il jouxte. Et après, voilà, moi, sous le pont de l'autoroute, comme on peut rien y mettre, on y met souvent des terrains de jeu pour les enfants. Moi, je me souviens de nuits d'été où on jouait au foot jusqu'à 3h du mat. Et c'était des super souvenirs.
Voilà, c'est ça.
Donc, il faut pas non plus dramatiser. Les enfants, si on leur donne des choses, ils peuvent grandir n'importe où, je pense. À partir du moment où ils ont une chance. Là, récemment, il y a eu des gros soucis dans la ville, dans le collège, parce qu'il y a...
L'année dernière, en 2016.
Bah, il y a du deal qui se fait dans la rue, et on trouvait qu'il y avait un peu trop de patrouilles dans la rue qui gênait le trafic à cause de la présence du collège. Et donc, on a retrouvé des flèches, ils ont le sens de l'humour en plus,
ouais.
Mais des flèches de compétition, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment tuer dans le collège pour indiquer qu'il fallait se calmer un peu avec les patrouilles, parce que ça empêchait le commerce. C'était une mise en garde.
Voilà. C'était les dealers qui envoyaient les flèches sur le collège Versailles, donc où vous avez fait vos études. Mais alors vous, c'était déjà comme ça, où ce collège était neuf, on venait
non, il y avait déjà
on venait
des
d'instaurer les ZEP, les zones
après,
d'éducation prioritaire, ça s'est dégradé.
Ça s'est peut-être dégradé, mais lorsqu'il y a eu cette polémique là sur la mise en garde des dealers et un peu cet état de choc, il y a eu la prise de parole. Je me souviens d'une émission où on entend parler d'un professeur. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des professeurs fabuleux. Moi, je dois ma vie à ces gens-là, c'est-à-dire que aujourd'hui encore, quand vous entendiez ces professeurs parler, vous sentez qu'il y a des personnes qui croient en ce qu'ils font et qui les tiennent.
Alors justement, voilà. Parlez-moi de vos professeurs. Qui a eu de l'importance? Qui a joué un rôle dans votre vie?
Tous à leur manière, vraiment.
Mais de qui vous souvenez?
J'ai eu un gros sourire. Il y a le prof d'anglais qui me terrorisait parce que, sans doute à cause des gènes linguistiques de ma mère, quand il fallait parler anglais, j'avais du mal. Et on était dans des mini-cabines, parce qu'on avait quand même du matériel à l'époque. Donc on avait
C'est-à-dire qu'il y a eu des moyens qui vous ont été
donnés. Oui, il y avait des moyens, mais donc du coup c'était quand même Orwell, parce qu'on avait un professeur d'anglais qui pouvait nous écouter dans nos cabines en train de faire nos exercices sans qu'on sache qu'il nous entendait.
Ouais.
Et parfois j'entendais « Martin, ce n'est pas bon, répétez dans mon casque audio ». Voilà, donc lui m'a terrorisé et en même temps je dois beaucoup. Et puis il y a eu un prof qui m'a vraiment... sauvé dans le sens où il m'a apporté le bonheur, c'est qu'il m'a fait découvrir Francis Ponge. Un jour, on a eu une feuille à trois, deux poèmes un peu en vrac. Et c'était le contre-exemple de tout ce qu'on imagine en poésie. La poésie sérieuse, en sonnet. Non, là, c'était que des poèmes d'Ada, des choses marrantes. Et il y avait un poème de Francis Ponge qui était Le Cajot.
Ah bah oui.
À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française à cajot, simple caissette à claire-voix vouée au transport de ces fruits qui, de la moindre suffocation, font à coup sûr une maladie. Et moi, je savais pas qu'on pouvait écrire sur un cajot. Voilà. Et donc, ça m'a ouvert un imaginaire, vraiment.
C'est-à-dire vraiment
que j'ai compris que la littérature, ça pouvait être plein de choses.
Avec le cajot de Francis Ponge.
Avec le cajot de Francis Ponge. J'ai vraiment senti le déclic. Vous savez, comme quand vous décoincez un dos ou...
Vraiment, vous n'exagérez pas, vous faites pas...
Je suis marseillais, ouais, alors voilà, après, vous faites ce que vous voulez.
Vous faites pas votre marseillais.
Mais aujourd'hui encore, Ponge, c'est mon maître. C'est mon maître étalon. Quand je publie un texte et que je réfléchis avec l'auteur sur son écriture, son degré de sincérité, de vérité, je le juge par rapport à ce que Ponge m'a appris.
Alors, on l'écoute.
La terre, ce mélange émouvant du passé des trois règnes, tout traversé, tout infiltré, tout cheminé d'ailleurs de leurs germes et racines, de leur présence vivante, c'est la terre. Ce hachis, ce pâté de la chair des trois règnes. Passé non comme souvenir ou idée, mais comme matière. Matière à la portée de tous, du moindre bébé, qu'on peut saisir par poignée, par pelletée. Si parler ainsi de la terre fait de moi un poète mineur ou terrassier, je veux l'être. Je ne connais pas de plus grand sujet.
Le poète terrassier.
C'est la classe quand même.
Ah ouais, c'est la classe. Donc vous êtes tombé dans le parti pris des choses, vous.
Ouais.
C'était le parti pris. Cajot fait partie.
Voilà, c'est le parti pris, donc c'est son premier recueil. Ponge commence à écrire dans les années 20. Les textes qui sont dans le parti pris des choses, qui est vraiment son premier grand recueil, c'est dans les années 30 qu'il écrit, ça sort pendant la guerre. Et il va beaucoup plus loin après. En fait, donc c'est un homme qui a pris le parti pris des choses. Donc il observe la nature, il regarde des arbres. Et il y a un texte qui est magnifique, qui est aujourd'hui un de ceux qui me touche le plus, qui s'appelle « Le carnet du bois des pins ».
Dans le parti pris ?
Non, c'est
ah
après.
Ah oui, c'est ça.
On est en pleine guerre.
Ah oui.
Et au moment où tous les poètes écrivent sur la liberté, la résistance et tout, lui se promène dans une forêt de pins de la Haute-Loire et il prend son pied. Mais vraiment, il vous décrit ça comme s'il était dans le cabinet de toilette d'une grande femme rousse et ce tapis d'épines au sol, c'est les cheveux d'une femme. Donc il y a un côté presque érotique. Et je me disais, alors ça c'est un peu plus tard quand même, c'est pas 6, 10 ans qu'on se pose ce genre de questions, mais quel culot pour un type comme lui, qui est normalien, enfin, qui est vraiment un intellectuel, qui est dans le giron des éditions Gallimard, donc qui pourrait être en posture d'autorité, de savoir. Quel culot pour se dissocier de toute cette poésie, on va dire militariste, utilitaire, ou d'idéologie, pour chanter la beauté du monde. Et dire, bah en fait... si vous fermez les yeux, par exemple, et vous imaginez que vous lévitez dans une pièce, vous savez plus où vous êtes, parce que vous êtes en contact avec rien. Et puis, tout d'un coup, touchez la table, et bien, au même moment où vous prenez connaissance de la table, vous prenez connaissance de la main qui la touche, c'est-à-dire de vous-même. Et Ponge, c'est ça, en fait, l'idée. Et c'est-à-dire que quand vous touchez les choses, vous apprenez qui vous êtes aussi.
Alors, c'est ce qui vous est arrivé, vous, en découvrant Ponge. Vous avez appris qui vous étiez. De la même façon que là, vous avez touché la table.
Oui, alors,
quand un poème de Ponge vous a touché, vous avez compris.
On apprend qu'on est un peu l'infini. Je pense que le métier d'éditeur, par exemple, c'est de comprendre que tout ce qu'on peut aborder est une part de vous-même qu'on ignore.
Magnifique.
Je ne l'avais pas préparé.
Non, c'est très bien, vous faites des progrès. Frédéric Martin, en 1981, vous étiez décidément trop jeune pour danser sur ce tube de Captain Sensible. Vraiment dommage pour vous.
I said, what? He said, Captain. I said, what?
He said, Captain. He said, what? He said, Captain. He said, what you want?
Once a lifetime, twice a day. If you don't work, you get no pay. I've been to the east, I've been to the west. But the girls I like most are the ones undressed. Well, hello, Adam. I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gun full of you and I'm a feeling bad. But you're an ugly old pirate and ain't I glad. He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what?
said, what? He said, Captain, I said, what do you want?
Frédéric Martin, vous êtes avec nous jusqu'à 15h sur France Inter. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant que vous êtes éditeur marseillais et que vous avez choisi comme journée particulière le 10 août 1981. Ce jour-là, la loi Lang sur le prix unique du livre était adoptée. Frédéric Martin, cette loi vous a vraiment permis de nourrir votre soif de lecture. Vous avez amené là votre Jules Verne qui est tout... C'est même plus corné, quoi. La page est complètement...
C'est le premier livre que j'ai acheté. Quand j'étais enfant, j'avais 8-9 ans, je pense.
Un livre de poche,
acheté dans un supermarché. Et pour moi, il est important parce que donc la loi du prix unique existait. C'est un livre assez hideux. Hein. La couverture, c'est l'époque où on avait peur de rien. Donc c'est une photo où c'est une couverture où on a repris les gravures Hetzel qui étaient magnifiques.
Ah, c'est moche.
Et on a collé par-dessus une photo de requin blanc pour faire un peu plus punchy.
Mais après, à l'intérieur, il est magnifique ce livre.
C'était une époque, oui, où on travaillait vraiment les éditions de poche. Donc à la fin, il y a même un petit dossier, c'est super bien fait.
Que vous avez surligné.
Voilà. Et c'est un...
Il promet, je ne voyagerai plus qu'en rêve.
Je n'avais pas relu ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Mais je l'ai lu 7-8 fois, je pense, à cet âge-là.
Donc acheter en supermarché, parce que c'est là où vous alliez pour acheter les livres. Avec
votre mère, pour
faire les courses.
Et puis pour moi, c'est une bonne mise en garde. La loi du prix unique du livre, c'est un truc hyper simple. Hein. Le prix unique du livre, ça veut dire que où que vous alliez en France aujourd'hui encore, le prix est le même.
Ouais.
Que vous l'achetiez dans un supermarché, dans une librairie, par Internet, c'est le même. Voilà, donc si vous avez des chouettes libraires, allez les voir, c'est bien. Et surtout, c'est un pied de nez à toutes les théories libérales sur l'économie du livre, parce que le livre en France, c'est pas plus cher qu'ailleurs, c'est même plutôt le contraire. Ça pourrait paraître une loi dirigiste, pas du tout. Moi, quand je publie un livre, je peux le publier au prix que je veux. Personne m'oblige à fixer un prix. Par contre, il va être vendu au même prix partout. Et ça, c'est une loi de biodiversité magnifique. Ça permet à des libraires, à des supermarchés, à des sites en ligne, de faire la même chose. Et ça a permis en France, depuis donc 35 ans, d'entretenir, on va dire, une biodiversité du livre qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais pas faire mon métier s'il n'y avait pas ça. Et j'aime la vie que j'ai d'éditeur. Et quand je vois des copains éditeurs à l'étranger qui voient ce que je publie, comment ça... C'est bien reçu en France. Ils me disent, mais nous, on pourrait pas faire ça en Allemagne ou en Italie.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas cette loi. On a le plus beau réseau au monde de librairies en France. Je sors un livre ce mois-ci, donc en janvier, avec un auteur merveilleux qui s'appelle Marie Redonnet. Avant même la parution du livre, j'avais 20 des plus grandes librairies en France, à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, à Rennes, à Strasbourg, qui ont dit « on veut l'inviter, on veut faire parler de son livre ». Ce travail-là qui permet à ces auteurs d'exister, on n'arrive pas à le faire dans d'autres pays.
Et vous pensez que la loi
prix unique... C'est clair, c'est que s'il n'y avait pas cette loi... ce réseau de libraires n'existerait pas et c'est tout l'écosystème du livre qui serait différent.
Alors quand est-ce que vous avez eu envie de devenir éditeur ? Quand est-ce que ça vous a traversé l'esprit ? Parce que quelle drôle d'idée !
Je disais en début d'émission qu'on décide jamais. Je suis pas sûr que j'ai décidé. En plus, il y a un truc très con, c'est que l'édition, c'est un milieu très petit.
Ouais.
Il y a peu de personnes qui travaillent dans l'édition. Même les plus grands noms de maisons d'édition auxquelles on pense, c'est souvent qu'une poignée de personnes qui sont à l'intérieur.
Franchement, vous ne savez pas du tout. C'est pas une rencontre, c'est pas un livre. Mais là,
c'est pire
pour le
que
coup.
Ça, c'est que j'y suis rentré par accident.
D'accord.
Il y a une grande personne dans ma vie qui s'appelle Viviane Ami, qui est une très belle éditrice. Et un jour, je finis mon service militaire et puis je veux travailler dans l'édition parce que j'aime les livres. Et puis c'est là où je me sens bien, complètement. Des amis me font savoir qu'en fait, elle va recruter quelqu'un. Et je me dis, mais Viviane Ami, je l'avais rencontrée à l'époque d'un stage quand j'étais étudiant. Et je lui fais un magnifique courrier. Et j'ai travaillé 7 ans chez elle. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de créer, après, une maison d'édition et
votre
tout.
Enfin, maison d'édition,
ça a vraiment tout influé. Sauf que quand je l'ai rencontrée, je la reconnaissais pas du tout. Et pendant tout l'entretien, elle se penchait toutes les 5 minutes en me disant « Mais vous êtes sûr qu'on s'est rencontrés ?» Puis moi, je transpirais à grosses gouttes. Je dis « Ben oui, j'étais convaincu. » Et puis 6 mois après l'embauche, puisqu'elle a fini par m'embaucher, je rencontre au cours d'un cocktail Liana Lévy. Et je me dis « Si j'avais pas fait cette erreur de nom, j'aurais peut-être pas eu le culot de faire un courrier de 3 pages. » Elle m'aurait pas embauché et probablement que je n'aurais jamais travaillé dans l'édition.
Personne.
Je suis rentré dans l'édition par un défaut de mémoire.
Formidable. Moi, je croyais que c'était Pauvert qui vous avait donné envie de devenir éditeur. Je pensais que c'était Jean-Jacques Pauvert. Je me suis trompée?
Non. Pauvert, ça a été la chance de ma vie.
Ah.
Voilà, c'est autre chose.
Alors, faut dire qui est Jean-Jacques Pauvert.
Ben, Jean-Jacques Pauvert, c'est un des plus grands éditeurs des années 50-60. Il a révolutionné la maquette. Ça a été le dernier éditeur de Breton. Ça a été l'éditeur d'Histoire d'eau. Ça a été le premier éditeur au monde à publier Sade sous son nom. Voilà, ça a été un libérateur d'idées et d'indépendance fabuleux.
L'éditeur le plus aventureux du XXe siècle.
Ah, sans doute, ouais. En plus, il a commencé comme apprenti magasinier dans la librairie Gallimard du boulevard Raspail, donc la librairie historique de Gallimard, à 14 ans. Et 4 ans plus tard, c'était un des plus beaux éditeurs.
On l'écoute.
Un jour, j'ai reçu des gens qui faisaient une émission de télévision, ils m'ont dit... Voilà, nous avons une émission sur l'édition, sur la littérature. Alors, on a pris des auteurs et on a pris des éditeurs. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Henri Michaud, Daninos, Guy Descartes, Jean Vesalle. Alors, ils n'avaient pas tellement réfléchi à la chose. Mais je lui ai dit, vous voyez, les éditeurs, c'est la même chose. Moi, je considère que j'ai pas grand-chose de commun avec des gens comme Monsieur Nielsen, des Presses de la Cité, ou Monsieur Artaud, des éditions Artaud. Cela dit, absolument sans aucun...
Un peu de jalousie, non?
De leur part, sûrement. Mais pas de la mienne. Non, ce sont des gens très bien. Vous comprenez, il y a des gens de toutes sortes dans l'édition. Alors, leur vocation n'est sûrement pas la mienne. D'abord, moi, je me suis aperçu très tard. J'avais une vocation d'éditeur. J'étais déjà éditeur depuis 10 ans. À ce moment-là, je pensais tout à fait au début que j'étais libraire.
Enfin, lorsqu'on devient éditeur à 19 ans, c'est que on a une vocation littéraire ou alors un goût passionné pour les affaires.
Non. Non, mais je m'intéressais beaucoup aux livres. Et j'étais libraire. Enfin, j'étais libraire, je vendais des livres. Et j'ai gardé beaucoup de nostalgie de cette époque. Vous savez, c'était la guerre.
Elle vous plaît, cette archive de Jean-Jacques Pauvert, parce que vous l'avez bien connue. Et moi, elle me plaît parce qu'il y a son rire, on entend son rire malicieux, parce que c'était un homme très malicieux.
Oui, cette espèce de petit gloussement avant de dire oui.
Oui.
C'est lui, et je l'ai aimé, je l'aime, cet homme. C'était un goût pour la liberté. Quand il est taquin, parce que quand il dit il n'a pas grand-chose à voir avec certains éditeurs,
ouais.
C'est sur le registre du plaisir, je pense, auquel il pense.
La jubilation,
parce que
même.
Voilà, c'était un homme du plaisir, et c'est vrai qu'il y a certains éditeurs, ils sont un peu sérieux quand même. Oh là là. Moi, je me souviens d'ailleurs, quand j'ai commencé à vraiment travailler dans l'édition, je me mettais un garde-fou en prenant photographiquement avec mes yeux un arrêt sur image sur certaines têtes d'éditeurs en me disant « pourvu que je ne sois pas ça dans 20 ans ». Parce que c'est des travaux usants et tout, oui. Mais j'y pense régulièrement en me disant « sois vigilant quand même, sois dans le plaisir qu'a été Pauvert jusqu'à la fin de sa vie ».
Alors Jean-Jacques Pauvert pensait qu'une maison d'édition devait être un lieu d'accueil pour les esprits libres, les esprits déserteurs, un refuge pour les esprits singuliers. Et qu'il fallait les protéger. C'est ce que vous essayez de faire, vous aussi, avec votre maison d'édition? On ne sait pas la même époque. Hein.
Si, non, mais c'est exactement la même chose. C'est que, et là, ça rejoint la filière Ponge dans les sensibilités. Il y a 2 manières de publier des livres.
Ouais.
Il y a ce qu'on peut appeler des ouvrages de propagande, ou en tout cas d'idéologie, ou de commerce. Et puis, il y a ce qu'on appelle, ou ce que Ponge appelait les bombes à retardement. C'est-à-dire des choses où on fait plus confiance à l'imaginaire et à son pouvoir de sédition lente, souterrain. Et Pauvert et le travail que je fais s'inscrit plutôt dans cette veine. Je publie des auteurs qui sont des voyous, en fait. Qui sont pas là pour vous convaincre. Ils ont juste quelque chose auquel ils tiennent. Et ils peuvent avoir le monde entier contre eux, ou même face à eux, parce qu'ils sont pas en esprit de conquête ou de rébellion. Ils changeront pas.
Et le travail de sédition fonctionne? Ça marche?
Je crois, ouais. C'est pour ça d'ailleurs que le livre a encore la vie belle hein, aujourd'hui. C'est...
Vous arrivez à infiltrer comme ça avec vos livres?
Il y a certains auteurs du catalogue qui ont changé pas mal de vie quand même déjà.
Alors il y a une personne, il y a une femme qui a changé, je pense, la vie de ses lectrices. C'est Sapienza Goliarda, avec l'art de la joie.
Oui.
Ça, c'est un livre qui change nos vies quand on le lit.
Et qui porte sacrément bien son titre.
Ah ouais.
Me voici à 4-5 ans, traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux. Il n'y a pas d'arbres, ni de maisons autour. Il n'y a que la sueur due à l'effort de traîner ce corps dur et la brûlure aiguë des paumes blessées par le bois. Je m'enfonce dans la boue, jusqu'aux chevilles. Mais je dois tirer. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Laissons ce premier souvenir tel qu'il est. Ça ne me convient pas de faire des suppositions ou d'inventer. Je veux vous dire ce qui a été, sans rien altérer. Donc, je traînais ce bout de bois, et après l'avoir caché ou abandonné, j'entrais dans le grand trou du mur que ne fermait qu'un voile noir couvert de mouches. Je me trouve, à présent, dans l'obscurité de la chambre où l'on dormait, où l'on mangeait pain et olives, pain et oignons. On ne cuisinait que le dimanche. Ma mère, les yeux dilatés par le silence, coud dans un coin. Elle ne parle jamais, ma mère. Ou elle hurle, ou elle se tait. Ses cheveux de lourds voiles noirs sont couverts de mouches. Ma sœur, assise par terre, la fixe de deux fentes sombres ensevelies dans la graisse. Toute la vie, du moins ce que dura leur vie, elle la suivit toujours en la fixant de cette façon. Et si ma mère, chose rare, sortait, il fallait l'enfermer dans les cabinets parce qu'elle refusait de se détacher d'elle.
C'était un extrait du tout début du roman, hein, de l'art de la joie, diffusé, qui a été diffusé sur France Culture. Et là, le personnage principal, Modesta, va dire quelques lignes plus tard la jouissance qu'elle éprouve en entendant sa petite sœur infirme pleurer. Et c'est le début du roman.
C'est le tout début, là, qu'on vient d'entendre.
À votre avis, pourquoi ça change tant la vie, ça a tant bouleversé nos existences, ce roman? C'est de la liberté. C'est de la transgression, c'est de dire qu'on doit choisir sa vie, ça parle des femmes.
Ouais.
Qu'est-ce que vous me diriez?
J'ai eu la chance d'avoir une petite sœur, qui a 3-4 ans de moins que moi. Et avec une mère italienne, c'est encore plus flagrant. On voit le privilège, qui peut être aussi un handicap, d'être un garçon, c'est-à-dire de grandir dans un contexte qui est plutôt protégé et où on a un sentiment de toute puissance souvent. Et pour les filles, c'est souvent plus compliqué, je crois. Et bizarrement, dans ce que j'ai pu publier, il y a plein d'auteurs femmes qui ont abordé ce problème-là, de l'émancipation,
de vivre
de la
sa
prise
vie.
De pouvoir. Ouais. Et Sapienza, dans tout ça, c'est la plus belle, c'est la plus forte.
Mais c'est la prise de pouvoir à l'intérieur de soi pour oser vivre sa vie.
Oui, elle vient d'un milieu qui était très compliqué, qui était à la fois pesant par l'engagement politique, c'était des grands révolutionnaires ses parents.
Sapienza Goliarda,
qui était pesant dans l'environnement familial, il y a eu l'inceste quand même. Voilà, donc elle a tout eu, je veux dire, dans la difficulté d'être femme. Et toute cette problématique, ces tensions, elle les a retranscrits et magnifiés dans l'art de la joie. C'est-à-dire que l'art de la joie, c'est vraiment un roman d'apprentissage où on suit ce personnage Modesta. On l'entend, elle est vraiment gamine, elle a 4-5 ans. Et on va la suivre jusqu'à ses 65 ans et c'est le pied. Parce qu'on voit une femme devenir libre. Et ça, c'est une leçon de vie pour les hommes aussi. Moi, ce que je regrette, c'est que je trouve que les hommes n'ont pas assez lu ce livre. C'est un immense succès. Beaucoup de femmes vénèrent ce texte. Et à chaque fois qu'on fait une rencontre en librairie sur ce livre, je me dis, merde, il y a encore que 2 mecs.
Ah oui?
Ouais.
Alors, mais vous avez un goût des sacrées bonnes femmes, quand même.
Oui, j'ai de la chance parce que...
Vous êtes entouré que par des sacrées bonnes femmes.
Pour penser à Charlotte Salomon, par exemple, qui est un monstre de liberté. Marie Redonnet, Valérie Manteau, Bérangère Cournu, Fabienne Hiver, qui est marseillaise d'ailleurs, coucou Fabienne. On a publié, défendu des belles âmes de femmes libres, vraiment.
figures. I gave you right to die and you gave me games. Love figures. I'm on crying cause you just won't change. Love figures. I gave it all and you gave me shit. Love figures. I wish I could do exactly what you did. I wish I could hurt you back. Love, what would you do if you couldn't get me back? You're the one who's gonna lose something so special, something so real. Tell me, boy, how in the fuck would you feel if you couldn't?
Zoé Varié sur France Inter.
Alors Frédéric Martin, en 1981, la peine de mort est abolie en France. Ça, vous vous en souvenez, même si vous étiez tout minot. IBM sort son premier PC. Bobby Sand, le militant de l'IRA, meurt après 66 jours de grève de la faim. Bob Marley disparaît. Jacques Massier, chef du SAC de Marseille, est assassiné à Auriol, près de Marseille. Lady Di et le prince Charles se marient. Et en 1981, la série Dallas arrive en France, diffusée sur TF1, et les tribulations d'Ewing vont faire trembler notre beau pays pendant 356 épisodes.
Tu m'as étonné ce soir, tu n'as pas roulé sous la table.
Oh, je suis désolée de t'avoir déçu, mon chéri. Je me suis tenue de façon correcte, j'ai été charmante, polie et sobre.
Et moi, je peux te dire que tu files à plus de 100 à l'heure vers la dépression nerveuse.
Non, J.R. Je vais très bien. Et tu ne m'enfermeras pas dans la clinique de ton ami.
Et qui m'en empêchera?
Bobby va me défendre.
Tu sais que j'arrive toujours à ce que je veux.
Dis-moi, J.R., avec quelle traînée vas-tu encore passer la nuit?
Et qu'est-ce que ça peut te faire? De toute manière, elle sera obligatoirement plus intéressante que la traînée que j'ai sous les yeux.
Bon, alors vous regardiez Dallas?
Non, mais la madre, bien sûr.
Ah, la maman, voilà. Elle regardait Dallas, elle ne loupait pas un épisode.
L'enfance entre Dallas et puis Santa Barbara aussi, enfin ça a été le pied, parce que... Donc il y a un côté très pagnol chez ma mère, la Guayle, et avec le choc des cultures américaines, c'était magnifique. Voilà, c'est... Moi j'ai une tendresse énorme pour J.R.
Pourquoi ?
Parce que c'était ma mère qui se révoltait contre ce salaud. Elle était vraiment prise dans les histoires.
Donc elle parlait tout. L'invective,
c'est. Voilà, c'est du vrai spectacle, ma mère qui regarde Dallas.
Alors il y avait votre maman qui regardait Dallas et il y avait votre papa qui peut-être écoutait ça.
Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre. Suivant, le ciel irlandais était en paix. Marina plongée nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly se dit, je suis...
Alors ?
Ouais, j'en ai bouffé du Sardou. C'est pas forcément ma tasse de thé, voilà. En plus, on avait une Renault 5 qui s'appelait Caroline.
Oui.
Ma mère avait rebaptisé Caroline. Et puis on faisait quand même parfois le trajet... Marseille, les Ardennes en voiture, donc ça prenait 14 heures et avec Caroline, et on avait Sardou et j'en pouvais plus. Et mon père est toujours accro. Voilà, Sardou, c'est particulier pour moi.
Donc c'est 1980 aussi, c'était...
Tout s'explique.
Oui, voilà. Et c'était aussi la sortie de la guerre du feu.
Vous avez choisi le meilleur passage.
Non, pas du tout. Vous pensez à la fameuse levrette, ouais, dont tout le monde a parlé.
Ça.
Non, là, ils sont en train de s'épouiller. Mais comme ils ne parlent pas, c'est les pouillages. Ouais. Vous l'avez vu, ce film ? Vous vous en souvenez ?
Je crois que c'est le premier film même que j'ai vu. Voilà.
La guerre du feu ?
Ouais.
Mais vous êtes à 6 ans ?
Alors, je ne suis pas sûr qu'on est allé le voir avec la classe dès la sortie.
Dans votre ZEP.
Mais j'ai deux souvenirs cinématographiques, si vous voulez tout savoir. La guerre du feu avec la classe.
Oui.
Et la boum avec mon père.
C'est
mes deux premiers souvenirs. Ben en fait, j'avais été bon à l'école et en fin d'année, pour me récompenser, mon père devait m'amener voir E.T. Sauf qu'il est hyper stressé, on se trompe de salle, on atterrit à la boue et on n'a pas le droit de ressortir parce qu'une fois qu'on est dans une salle avec mon père, on y reste. Et voir la boue à 10 ans avec son père,
c'est pas génial.
Je préfère encore Sardou.
Bon, c'est bientôt la fin de cette émission, Frédéric Martin. Vous avez accepté de venir ici parce que vous aviez envie de remercier. De remercier tous ces gens que vous avez croisés, cette prof ou ce prof de français, avec Ponge, Pauvert, votre mère, votre père, qui vous ont laissé quand même partir vers d'autres cieux.
Bah, ils m'ont pris pour un fou assez vite. Parce que, par exemple, à cause de Ponge, qui était fou du Littré, j'avais acheté une édition du Grand Robert, dans la rue de Versailles, d'ailleurs, il y avait un brocanteur. Et je me promenais en vacances avec les 6 volumes en grand format du Robert.
C'est vrai.
Ouais.
Et vous mettiez ça dans le coffre de Caroline.
J'avais trouvé une sorte de caisse en métal où il rentrait. Et donc on partait en vacances avec mon dictionnaire du Grand Robert. Voilà. Et ça, mes parents, je leur remercierai jamais assez d'avoir dit « Ok, t'es pas comme nous, mais tout va bien, on te suit. » Et finalement, ma chance, c'est ça, c'est que toute ma vie, jusqu'au libraire, donc, qui aujourd'hui me permet de publier ce qui me touche et que j'ai envie de transmettre, il y a eu des gens pour me dire « Bah oui, vas-y, fonce. »
Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que vous avez choisi cette journée-là, 1980,
et
c'est pas tant le prix du livre que la ZEP.
C'est la ZEP et tout ça. Et quand je disais, je trouve qu'on ferme trop les portes aujourd'hui, on a plein de problèmes. Il n'y a pas à discuter. Il y a de la pauvreté, il y a du chômage et tout. Mais je trouve que le vrai problème de notre époque, c'est qu'on a fermé vraiment beaucoup de portes pour les jeunes. Quand je vois des gars de 25 ans qui arrivent à la maison d'édition pour demander un stage alors qu'ils sont surdiplômés et que ça fait déjà 6 ans qu'ils enquillent des stages... Mais ce pays irait tellement mieux si on faisait plus confiance aux jeunes. Si on leur disait pas, on va vous faire de la charité, mais on leur dit, épatez-nous, quoi, donnez. Montrez-nous ce que vous savez faire. Ça serait tellement plus chouette.
Vous êtes un drôle de zozo quand même, hein, décidément, Frédéric Martin.
Dites ça à ma mère.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous, Frédéric Martin. Alors, votre maison d'édition, c'est la maison du Tripode, faut-il quand même le dire une fois dans cette émission. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Rebecca de Nantes et Hugo Combes et Isabelle Faure. À la réalisation, Flora Bernard. À la programmation musicale, Djoubaka. À la technique, Stéphane Boja. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Podcaster pour écouter quand vous voulez. Tout de suite, après le flash, vous retrouverez Vincent Josse et son grand atelier. À la semaine prochaine.